Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la radio du lycée. Nous sommes ravis de vous accueillir et de vous avoir parmi nous à l'écoute sur cette deuxième édition du live de Radio Bossy. Restez avec nous pour en savoir plus sur la vie du lycée et profitez de nos chroniques sur l'actu géopolitique et culturelle. Aujourd'hui, l'invité du live, c'est Madame Jacot qui répondra aux questions de Jeanne autour du développement durable au lycée, puis viendra le micro-trottoir de Mélodie et Karl à la rencontre des élèves de la spécialité art plastique qui sont allés au festival de la photographie d'Arles, suivi du zoom sur le métier de CPE par Nouran, Candice et Ethan. Salomé, dans sa chronique Géopoliticus, fera le point sur la situation des Arméniens au Haut-Karabakh, et Lénie nous parlera du dernier album du rappeur Freeze Corleone dans le Petit Journal de la Culture. Pour finir, dédicaces et événements à venir avec Karine. Et tout de suite, c'est Madame Jacot qui répond aux questions.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique L'invité du live, ici Jeanne Provost-Dauphin. Pour le deuxième numéro de notre live, j'ai le plaisir d'interviewer Madame Jacot, professeure d'EPS dans notre établissement, sur un projet qui lui tient beaucoup à cœur, le projet CAP Orientation, auquel j'ai moi-même pu participer en seconde. Bonjour Madame Jacot. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer donc en quelques mots en quoi consiste ce projet CAP Orientation ?
CAP Orientation, son origine, c'est du beach rowing qu'on voulait intégrer pour que les élèves de Bossier puissent vivre une activité nautique. CAP Orientation, c'est différents objectifs. À la base, c'était Horizon. Donc derrière, c'était développer un nouvel horizon pour la planète avec une sensibilisation à l'environnement. C'était un nouvel horizon physique avec des activités centrées sur la mer, mais en même temps permettant de développer le cardiovasculaire. C'était un nouvel horizon social avec une entraide entre les élèves et une approche citoyenne. Et enfin, c'était un nouvel horizon éco-citoyen pour sensibiliser nos élèves à la belle problématique que représente la Méditerranée.
Merci beaucoup. Et donc, quels bénéfices en tirent les élèves ? Et d'ailleurs, pourquoi ce projet ne concerne-t-il que les classes de seconde ?
Les bénéfices des élèves sont sur l'approche éco-citoyenne, sur leur orientation. C'est la raison pour laquelle on le met en seconde. Et sur aussi une logique d'intégration, puisque ce sont des élèves qui arrivent de classes et de collèges de différents horizons. Que les élèves de seconde n'ont pas du tout. C'est intégré à différentes cordées qui prennent des élèves qui vont du collège jusqu'au post-bac et qui vont permettre la réussite aussi au sein de l'orientation de nos élèves à nous.
D'accord, merci beaucoup. Et dernière question, en quoi ce projet s'inscrit-il donc dans l'ambition plus générale portée par le lycée sur le développement durable ?
Au niveau du lycée, différents axes ont été choisis sur le développement durable. L'un sur la protection de la biodiversité avec le jardin, l'autre sur la protection et la sensibilité à la Méditerranée comme ressource, mais aussi comme élément fragile à protéger. Et le dernier sur le tri sélectif, vous l'avez vu avec les poubelles qui sont arrivées entre autres. Et donc une autre façon également de consommer, vous l'avez vu avec la friperie qu'on espère voir se développer. Donc Horizon, c'était cette sensibilisation des élèves à la mer pour un engagement ultérieur dans le cadre des éco-lycéens ou éco-délégués.
Et quels sont les autres projets qui existent ou que vous allez mettre en place ?
Les nouveaux projets à venir sont nombreux. Novembre-décembre, nous allons faire les mois de l'orientation avec une découverte des métiers de l'environnement, notamment avec l'intervention d'un biologiste marin, et puis des rencontres avec des jeunes de l'IUT Gébio et d'autres établissements. On a envie de développer aussi l'axe de la gouvernance en lien avec les grands enjeux du monde contemporain et les lois à mettre en place pour protéger la mer. Le 28 novembre, c'est la journée de la Méditerranée, on va faire tout un pôle avec les collèges, avec du ramassage et la vision de film. On va profiter que notre établissement reçoit de nombreux élèves étrangers pour faire des mini-COP 21 et partager les bonnes idées et les bonnes pratiques des établissements hors France. Enfin, nous aimerions construire des synergies avec des établissements de la rive méditerranéenne pour que cette protection de la Méditerranée se multiplie.
Merci beaucoup pour ces projets qui ont l'air très intéressants. Malheureusement, c'est déjà la fin de notre interview. Un grand merci à Madame Jacot d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous expliquer ce projet. Et je vous dis à bientôt pour le prochain invité du live.
Merci Jeanne, le développement durable est une affaire qui nous concerne tous. Avec le micro-trottoir, Karl et Mélodie sont allés rencontrer les élèves de Madame Germani avec qui ils sont allés au festival de la photographie d'Arles. Écoutons leur réaction.
Bonjour à tous, c'est Mélodie de la rubrique micro-trottoir de la web radio. Aujourd'hui, avec Karl, nous sommes allés à la rencontre des élèves de la spécialité art plastique qui sont partis visiter le festival de la photographie à Arles. Nous avons recueilli certains de leurs avis ainsi que celui de Madame Germani, leur enseignante.
Donc, première question, que représente pour vous la photo dans votre démarche artistique ?
Je pense que c'est une possibilité pour l'artiste de communiquer en exposant un potentiel en art. C'est une façon très brute et très réaliste de capter et partager les idées du photographe.
Personnellement, je fais pas tant de photos que ça dans ma démarche, mais c'est vrai que j'aime bien utiliser des photos qui sont déjà existantes, par exemple de magazines ou d'autres artistes.
Alors pour moi, la photo, c'est un moyen d'art à part entière, mais aussi un moyen de pouvoir se référencer pour pouvoir ensuite réaliser d'autres œuvres artistiques.
Deuxième question, un artiste à Arles qui vous a marqué cette année ?
J'ai beaucoup aimé le travail de Grégory Crutzon, qui en fait fait de la photographie du coup, mais ses œuvres sont vraiment remarquables par rapport à la composition, et on dirait vraiment une scène de film ou carrément une peinture alors que c'est de la photographie.
Donc il y a un artiste qui m'a marqué, c'est Niki de Saint-Phalle avec son Tyrannosaurus Rex de 1963. C'est une œuvre assez poignante où on voit l'artiste en train de se battre contre ses démons de l'enfance et c'est exposé à la Fondation Van Gogh.
Troisième question, que pensez-vous de l'art abstrait ?
L'art abstrait, c'est souvent des messages très forts qui sont communiqués malgré l'aspect non concret de l'œuvre.
Alors je trouve que c'est une autre manière d'aborder l'art et certains sujets, mais aussi des œuvres qui sont parfois aussi intéressantes de manière décorative, comme le travail d'Hélène Frank Thaler, qui est intéressant sur le processus et le rendu final.
Vous êtes allé aux rencontres photos de Arles. Qu'est-ce que vous avez découvert ?
Déjà, on a pu étudier l'architecture par Franck Guéry sur la Tour Loma à Arles. On a pu voir des photographes, on a eu la chance d'avoir des médiateurs tout au long de notre visite pendant les différents lieux d'exposition.
Est-ce que la photo est un médium beaucoup utilisé par les élèves dans leur démarche artistique ?
Oui. Alors parfois, ils ne mesurent pas peut-être le potentiel que ça peut avoir comme en tant que presque matériau, je dirais. Mais oui, dans la mesure où c'est aussi une source pour eux d'images, enfin la possibilité d'en faire, d'en prélever des images toutes faites ou qu'ils font eux-mêmes, et que petit à petit, parfois, ça s'inscrit dans quelque chose qui devient vraiment plus personnel, qui travaille vraiment la nature même de l'image.
Merci à eux, nous avons entendu dans l'ordre Héna, Salomé, Inès, Quentin et Madame Germani. La photographie est un langage universel et qui se passe de mots, pas comme à la radio. On poursuit notre découverte des métiers du lycée avec la rubrique Zoom sur Nouran, Candice et Ethan qui sont allés à la rencontre de Monsieur Biais, CPE, et on va tout savoir sur le déroulement de ces journées.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons à la rencontre de Monsieur Billet, conseiller principal d'orientation au lycée Bossier. En quatre étapes, pouvez-nous décrire une journée type dans CPE ?
Alors, une journée type, il peut y en avoir plusieurs, mais je vais dire un peu ce qu'est la mienne. Pour moi, ça commence à 7h30, je regarde le programme de la journée sur mon agenda. Puis ensuite, c'est le bonjour à 8h-20 au portail. Donc je rejoins les surveillants et j'accueille les élèves. Ensuite vient le temps des rendez-vous avec les élèves, les parents, parfois entrecoupés de réunions avec mes collègues. Et plus tard dans la journée, ce sera le passage au self, comme à la maison des lycéens, car je suis aussi référent de la vie lycéenne.
Vous êtes plus cravate ou nœud-pape ?
Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, parce que pourquoi se faire des nœuds ? Nœud de cravate ou nœud de pape ? Pour moi, c'est col ouvert. Je préfère l'ouverture.
Deux objets essentiels dans votre métier ?
Le martinet et la règle en métal. Non, ça c'est une trace du passé, du temps où on appelait les CPE des surveillants généraux. Ça a existé. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'ordinateur et les oreilles. L'ordinateur pour me mettre au courant des différentes choses, et notamment des absences des élèves, et les oreilles pour écouter ce que chacun a à me dire.
Depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
36 ans.
Qu'est-ce qui est le plus difficile en tant que CPE ?
Terminer une journée en ayant fait la totalité de ce que j'avais prévu le matin.
Si vous devez choisir une valeur la plus importante à mettre en avant dans un établissement scolaire, laquelle choisiriez-vous ?
Alors pour moi, indiscutablement, c'est l'honnêteté. L'honnêteté de chacun, de mes partenaires ici qui travaillent, des élèves, des parents, c'est vraiment la valeur fondamentale.
Quel est votre parcours ?
Alors, mon parcours, c'est un bac D. Alors, un bac D, ça veut dire un bac scientifique. Ensuite, c'est un DUT carrière sociale. C'est comme un BTS, le DUT. Enfin, le mien, c'est en carrière sociale, animation socio-culturelle. Voilà. Et ensuite, j'ai fait une licence des sciences de l'éducation, puis j'ai passé le concours de CE.
Comment vos collaborateurs vous perçoivent-ils ?
Alors ça, j'en sais rien, il faut leur demander. Mais ce que je peux dire, c'est qu'au sein de la vie scolaire, il y a une vraiment bonne ambiance.
Vous voyez-vous encore CPE dans 10 ans ?
Non, j'aurais cessé toute activité professionnelle. Le temps du repos sera venu pour moi.
Si vous pouvez améliorer une chose dans l'établissement maintenant, ce serait quoi ?
Alors, pour moi, c'est quelque chose que j'ai connu, enfin, il y a longtemps que j'en rêve. Ce serait créer un hall fermé au vent, à la place des préaux ouverts.
Pouvez-vous décrire le lycée en 3 mots ?
Grand, perfectible, notamment sur ce point que je viens de dire, mais d'autres aussi, et agréable.
Des élèves vont sûrement écouter ce live. Auriez-vous des messages à leur faire passer rapidement pour conclure ?
Oui, un essentiel. Tout en respectant les autres, soyez vous-même.
Merci, avis aux élèves de terminale qui se questionnent encore sur leur orientation. Il est maintenant temps de se tourner vers l'histoire et la géopolitique avec Salomé qui va faire le point pour nous sur la situation tragique des Arméniens au Haut-Karabakh dans son Géopoliticus.
Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Géopoliticus, dans laquelle on va aujourd'hui parler du conflit au Haut-Karabakh. Vous avez sûrement dû entendre parler de l'exode des Arméniens du Haut-Karabakh suite à l'offensive azérie. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le Haut-Karabakh ? C'est une région montagneuse du Caucase, enclavée en Azerbaïdjan, un pays frontalier de l'Arménie. C'est en 1921 que Staline, le dirigeant de l'URSS, crée les frontières des républiques socialistes soviétiques, dont l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La région du Haut-Karabakh, peuplée à 95% d'Arméniens, est donnée à l'Azerbaïdjan. Mais à la chute de l'URSS, la région autoproclame son indépendance. C'est le début de la première guerre avec l'Azerbaïdjan. Les séparatistes gagnent la guerre grâce au soutien de l'Arménie, qui prend le contrôle du territoire entourant l'enclave, mais au prix de dizaines de milliers de morts. Le conflit est gelé pendant plus de 20 ans, malgré des affrontements réguliers. Alors pendant ce temps, l'Azerbaïdjan renforce son armée grâce à la vente de ses hydrocarbures et de son allié la Turquie, avec qui le pays partage un ennemi historique commun, l'Arménie. En 2021, l'Azerbaïdjan expose sa supériorité militaire en reprenant sous son contrôle tous les territoires entourant l'enclave, le tout en 6 semaines. La Russie tente alors d'agir en médiatrice, mais elle est trop occupée par la guerre en Ukraine pour remplir son rôle. C'est pour ça qu'en septembre, une nouvelle offensive azérie a lieu, causant l'exil de presque toute la population arménienne du Haut-Karabakh en seulement 6 jours. Près de 120 000 personnes auraient fui selon France Inter. Le premier ministre arménien accuse l'Azerbaïdjan de mener un nettoyage ethnique. Quant à la position occidentale concernant le conflit, les États de l'Union européenne préfèrent privilégier leurs intérêts économiques en évitant d'offenser l'Azerbaïdjan, nouveau fournisseur d'hydrocarbures depuis le blocus économique imposé à la Russie. L'entité séparatiste cessera donc d'être officiellement le 1er janvier 2024, après 33 ans d'existence, sans reconnaissance internationale ni par l'Arménie ou l'Azerbaïdjan.
Merci Salomé. Un peu de légèreté maintenant, quoique. Léni, dans son petit journal de la culture, se penche aujourd'hui sur l'artiste Fritz Corleone, un artiste talentueux mais controversé.
Bonjour et bienvenue dans cette chronique coup de cœur culturel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'album L'attaque des clones de Issa Lorenzo Diakaté, aussi connu sous le nom de Fritz Corleone, sorti le 11 septembre dernier. C'est un projet incroyablement captivant et audacieux. D'abord, qui est Fritz Corleone ? C'est un rappeur originaire de Dakar, où il a fondé un collectif de rappeurs nommé 667, avec notamment des artistes comme Zuku Maizi et Osiris Jack. Les paroles percutantes et le flow unique de Fritz Corleone transportent les auditeurs dans un univers sombre et introspectif. Les productions sont également très bien travaillées, avec des beats puissants et des ambiances mystérieuses. Ceci dit, les paroles sont très controversées par les médias français qui les jugent problématiques, avec des propos qualifiés notamment d'antisémites, et surtout, beaucoup d'accusations sur des hommes politiques qui sont soupçonnés de pédophilie et de violences sexuelles. Pour comprendre ces critiques, nous avons sélectionné quelques-unes des phrases jugées problématiques. Premièrement, dans Bâton Rouge, je cite « J'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. Et dans un autre de ses sons, nommé « Amérique du Sud », il dit « Il faut brûler tous les pédocriminels comme Polanski et Jack Lang ». Ses critiques ne l'atteignent visiblement pas, car il y répond dans son titre « Chavkat » en disant « Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin ». Cet album est vraiment un incontournable pour les fans de rap français. On peut cependant se demander si toutes les critiques qu'il reçoit ne participent pas au buzz autour de l'album, en lui donnant une énorme visibilité sur des propos controversés. Où se trouve donc la limite entre liberté d'expression, buzz médiatique et propos injurieux ? Je souhaite tout de même terminer cette chronique en signalant que toute provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence nationale, raciale ou religieuse est passible d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros. Bonne semaine à tous.
Merci Léni, cette analyse nous permettra de mieux écouter les paroles de Freeze. Pour finir, c'est le moment du « En bref » avec Karine. Karine, quelle dédicace cette semaine et quels sont les projets à venir au lycée ?
Merci Charlotte. Alors, jeudi dernier a eu lieu l'ouverture du club cinéma dirigé par Monsieur Bourguin avec la projection du premier film « Les temps modernes » de Charlie Chaplin. Durant l'année, 6 films vous seront proposés et diffusés dans la salle polyvalente où vous pourrez discuter et débattre à propos du film. Alors si vous êtes cinéphile, n'hésitez pas à venir. Prochain film, « Juste la fin du monde » de Xavier Dolan avec le regretté Gaspard Ulliel le jeudi 16 novembre à 18h. Concernant les sorties au théâtre organisées par Madame Marignan, elles reprennent à partir du jeudi 19 octobre avec un spectacle de danse contemporaine créé par Dada Malizo, inspiré du Sacre du Printemps et qui se nomme The Sacrifice. La prochaine sera la tragédie Bérénice de Jean Racine avec Carole Bouquet dans le rôle titre « Prise entre pouvoir et sentiment ». Rendez-vous le vendredi 17 octobre au Théâtre Liberté. Retrouvez tous les détails des sorties à venir sur le programme publié dans le message pronote de Madame Marignan. Par ailleurs, un voyage en Pologne est prévu pour 15 élèves de première du 13 au 23 octobre, accompagnés de Monsieur Mattei. Une formation sur la laïcité est également mise en place le 23 octobre. Une intervention est prévue dans 7 classes de première pour parler des addictions et du harcèlement.
Merci à tous pour votre écoute, merci aux techniciens et à dans 15 jours pour un nouveau numéro de votre émission préférée, le live de Radio Bossier.